oublié de vous dire ce matin que s'il y a des questions que vous vous posez, n'hésitez jamais de les écrire et de les mettre sur la table. Puis j'essaierai d'y répondre parce que je ne pourrai pas voir tout le monde, c'est bien évident. Et j'aime jamais que durant une retraite, il y ait des questions qui restent. Je vous parle très librement. J'essaie le plus possible de laisser la petite Thérèse parler à ma place. Et d'autre part, elle me demande qu'on parle aussi. Alors il peut y avoir des questions qui se posent, ou bien des questions par rapport vous-même à l'amour et à la connaissance que vous avez de la petite Thérèse qui restent comme des questions. Vous n'avez pas compris. C'est vrai, c'est pas si commode que ça de connaître et de découvrir l'âme d'une petite sainte. Elle est très déroutante. Mais je même le reconnais du reste. Elle est déroutante. Il y a Dieu qui peut saisir profondément tout ce qu'il y a dans une âme. On comprend très bien. Thérèse vivait très vite du ciel. Elle était sur la terre. Notre vie théologale nous fait vivre du ciel. On anticipe la vision béatifique. Je vous disais ce matin, anticiper la vision béatifique, hein, c'est quelque chose de formidable. On ne le réalise pas psychologiquement, absolument pas. Mais on sait que c'est vrai. On anticipe la vision béatifique et on reste avec tous nos problèmes humains. On reste avec tout notre psychisme humain. Un psychisme quelquefois très délabré, très abîmé. On reste avec notre imaginaire qui ne cesse de se balader à droite et à gauche. Qu'on ne domine pas du tout. On ne dominera jamais notre imaginaire. Parce que plus vous vous laisserez, plus il rebondit. C'est terrain volcanique. L'imaginaire repousse à tous les âges, absolument. Il y a des tentations à 15 ans, particulières à 15 ans. Il y a des tentations à 18 ans, particulières à 18 ans. Il n'y en a que 70 ans, selon l'écriture, puisque la belle Suzanne a tenté des vieux juges de 70 ans, qui se tenaient très bien, et qui devant la belle Suzanne ont perdu pied, complètement. L'Écriture nous raconte ça pour que nous comprenions que jusqu'à la fin de notre vie, tant qu'on est sur la terre, il y aura des soubresauts de l'imaginaire. Et l'imaginaire, hein, c'est quelque chose. C'est source d'inspiration et c'est source de tentation. Et le démon connaît l'imaginaire parfaitement. Il est le prince de l'imaginaire. C'est pour ça qu'il faut consacrer son imagination à la Vierge Marie, pour qu'elle puisse nous aider à comprendre les typhons. Aujourd'hui, il y a un évêque des Philippines qui est passé qui nous a parlé des typhons. Il y en a beaucoup là-bas. On voit très bien ce que c'est. Les bourrasques. Une des caractéristiques de notre psyche, de notre psychisme d'aujourd'hui, c'est la dégringolade extrêmement rapide. Je ne sais pas ce que ça veut dire dans la conduite de Dieu sur nous. Et ça, les meilleurs psychologues le disent. Et les psychanalystes disent que il y a des choses invraisemblables qu'on ne comprend pas. Des chutes extrêmement rapides, verticales. Peut-être parce que nous vivons un temps où tout va tellement vite qu'on n'a plus le temps d'assimiler. C'est ce que me disait un professeur de biologie. On n'a plus le temps d'assimiler. Les programmes en faculté de médecine sont tels qu'on n'a plus le temps d'assimiler. On devient des têtes d'examen. C'est ce que ça veut dire. On apprend à toute vitesse pour l'examen et puis on oublie tout le lendemain. Et ça ne forme pas. On n'a plus le temps à réfléchir. Parce que le jeu d'image est tel, la télévision joue un rôle terrible là-dessus, par rapport à la jeunesse. Vous voyez, on est très loin de cette réflexion qu'il y a quelques années, c'était à la fin de la guerre, un père de famille qui revenait d'avoir été pendant 5 ans en dehors de sa famille, il retrouvait ses enfants grandis. Il y a de ces petits garçons qu'il aimait beaucoup. Il le conduit au cinéma pour lui faire plaisir. Et le gosse arrive, il était habitué pendant la guerre. Sa mère était partie dans la campagne parce qu'elle trouvait que c'était mieux pour élever ses enfants, pour vivre. Alors, ce petit qui était habitué à voir la nature, quoi. Quand il commence à voir le cinéma, il dit, papa, tout ça c'est pas vrai. Tout ça c'est pas vrai. Il faut partir d'ici. Le père qui voulait lui faire plaisir, hein. Il dit, mais non, c'est intéressant, regarde un peu. Ah mais non, c'est pas vrai tout ça. Tout ça, ça n'a jamais existé. C'est, on nous le montre comme ça, mais quelle est la vérité derrière tout ça? Un gosse de 10 ans. Ce gosse était particulièrement... Il avait quelque chose en lui. Je me souviens, j'avais été le voir pendant la guerre, parce que mon frère n'étant pas là, je suis bon, faire une petite descente. Je le vois sur un mur de 8 mètres à peu près, il y avait une échelle. Alors je viens tout doucement derrière pour ne pas l'effrayer. Il regardait un merveilleux coucher de soleil. Couché sur le mur, sur le ventre, vous avez regardé comme ça. Petite patte derrière. Et, alors je viens par derrière, je le prends. Je dis, c'est beau. Il me dit, Dieu est beau. Il contemplait ça. Il était enfant de cœur. Et cette année, il y avait un prêtre qui était malade des poumons, la tuberculose, a contaminé 7 gosses. Et on n'avait pas encore découvert ce qu'on a maintenant, qu'on peut les sauver. On l'a conduit tout de suite à un hôpital dans le nord, à Lille. Et il est mort d'une façon foudroyante. Et c'était juste avant, pas très longtemps, avant la proclamation de l'Assomption. J'ai dit ça à Marthe. Marthe m'a dit, oui, il a fallu un cortège de petits innocents pour la Vierge Marie, pour le 15 août. J'ai trouvé ça très beau. Et elle voyait tous ces petits qui avaient été pris comme ça, cueillis comme des petites fleurs, pour annoncer. Ça, c'était le regard de Marthe, oui. Ça rejoint très fort, hein, ce regard du ciel, de la vision béatifique. Alors n'hésitez pas, s'il y a des choses que vous ne voyez pas ou que vous auriez aimé que j'insiste plus, de le mettre, puis vous le mettrez là, et puis j'essaierai d'y répondre petit à petit. Je continue, parce que je trouve cet acte d'offrande, plus on le lit, plus on l'aime. Et plus il nous fait découvrir vraiment le secret très fondamental de la petite Thérèse. Et je voudrais que vous l'aimiez, que ce soit un peu, j'allais dire, comme la résolution de retraite, qu'on vive de cet acte d'offrande, qu'on le fasse nôtre, qu'on considère que c'est quand même un très grand don de Dieu que la petite Thérèse nous a donné. Pour notre monde d'aujourd'hui, hein, pour ceux du XXe siècle. Je continue. Après l'exil de la terre, j'ai J'espère aller jouir de vous dans la patrie. Et je ne veux pas amasser de mérite pour le ciel. Je veux travailler pour votre seul amour. Là, voyez, nous voyons bien la pureté du regard et le désir de la pureté du regard. Aimer. Il dira même à un moment, aimer, mais pour faire plaisir au Père. Et ça, c'est très beau. Le mérite, ça nous appartient. Et c'est comme celui qui veut être parfait. Il y a des gens qui veulent être parfaits et qui croient qu'ils doivent être parfaits avant d'entrer dans l'intimité avec Dieu. Ils se trompent complètement. Être parfait, c'est encore nous. Que les philosophes, eux, comprennent que la morale implique la perfection, très bien. Je suis tout à fait d'accord. Mais la vie chrétienne est au-delà de la loi. La loi demeure. La loi nous apprend à être vertueux. La loi est donnée pour qu'on soit vertueux. C'est pour ça que pas un iota de la loi disparaît. Parce que Dieu veut qu'on soit quand même un tout petit peu vertueux. Au moins pour ceux qui sont proches de nous. Parce qu'on est toujours de mauvaise humeur, c'est très ennuyeux pour notre voisin ou notre voisine. Quelqu'un qui est toujours de mauvaise humeur. Il a toujours l'air de porter l'atlas sur ses épaules. Il est toujours de mauvaise humeur. Il n'arrive jamais à trouver un sourire. C'est très ennuyeux. Et ça, c'est manque de vertu. C'est très bien d'être vertueux. Mais c'est pas ça que Jésus demande en premier lieu. C'est d'être capable d'aimer Dieu et d'aimer le prochain. Et pour que cet amour garde sa limpidité, il y a quelque chose de plus. Chercher à plaire à Dieu. C'est plus. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on aime profondément quelqu'un, quelqu'un qui nous dépasse complètement, quelqu'un qui est au-dessus de nous, quelqu'un qu'on sait qui est beaucoup plus grand que nous, on a de la peine quelquefois à découvrir exactement ce qui lui plaît. Un époux découvre ce qui plaît à son épouse quand il est fiancé. Après, moins. Parce que quand il est fiancé, il veut conquérir le cœur de la fiancée. C'est pour ça qu'il est si charmant. On a envie d'y rester tout le temps comme ça, tellement gentil. Après, il s'habitue. C'est ça qui est terrible dans la vie commune. On s'habitue. Et s'habituer, c'est contraire à l'amour. L'amour ne s'habitue jamais. L'amour doit être tout le temps dans le renouveau, dans la découverte. C'est pas commode. C'est là où l'imagination peut être excellente. Mais dans l'ordre surnaturel, c'est l'Esprit Saint qui fait ça. Pour découvrir toujours le bon plaisir du Père, le bon plaisir de Jésus. Et découvrir le bon plaisir, c'est plus qu'aimer. C'est cette petite qualité particulière du premier amour. Parce que les fiançailles, c'est le premier amour. Le premier amour est inventif. Très curieux. Faut réfléchir sur le premier amour. Et ce qu'il y a de merveilleux chez la petite Thérèse, ça, il faut le reconnaître. C'est que le premier amour est toujours là. Il n'est pas toujours exprimé, il n'est pas toujours vécu, il n'a pas de répercussions psychologiques, s'il est présent. Et c'est ce premier amour qui permet de porter, de transformer la souffrance. Alors la souffrance est vécue avec encore plus d'intensité, mais elle est légère. Il y a une souffrance qui nous abat, et il y a une souffrance qui au contraire nous fortifie. Et je crois que seul le premier amour permet d'être victorieux de la souffrance. Parce que justement, ce premier amour, c'est un grand désir. C'est un grand désir d'aimer. On est dans l'état de celui qui veut conquérir, et donc il y a un grand désir. Tandis que quand on croit qu'on possède, c'est terrible pour l'amour. C'est terrible. Parce que, j'allais presque dire, il y a une contradiction interne entre posséder et aimer. Quand on aime, on respecte tellement l'autre qu'on ne veut pas le ramener à nous. Tandis que quand on possède, on ramène à nous. C'est très subtil, c'est bien. Mais on comprend très bien ça quand on aime. On voit très bien ce que c'est. La différence de ramener à soi. Et alors on est en pays conquis. Alors que quand on aime profondément, du premier amour, il y a un désir très grand. Et il y a un très grand respect. Et on ne veut pas posséder. On respecte pleinement l'autre. Et respecter pleinement l'autre, c'est découvrir ce qui lui fait plaisir. C'est aimer en voulant lui donner ce qui lui fait le plaisir. Alors l'amour, à ce moment-là, garde toute sa force et garde en même temps toute sa légèreté, toute sa gratuité, tout ce qui est propre à l'amour. Je crois que cet acte d'offrande qui montre le désir du cœur de la petite Thérèse, veut maintenir cela dans le cœur de la petite Thérèse. Elle veut rester toujours, tout en progressant dans l'amour, en allant toujours plus loin, elle veut rester toujours avec cette modalité du premier amour. Je veux travailler pour votre seul amour, dans l'unique but de vous faire plaisir. Dans l'unique but de vous faire plaisir. Donc, il faut connaître dans cet amour ce qui fait plaisir. Et par là, on maintient une délicatesse, une finesse dans l'amour. Dans l'unique but de vous faire plaisir, de consoler votre cœur sacré et de sauver des âmes qui vous aimeront éternellement. Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides. Car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Ne pas regarder les résultats. Ne jamais regarder les résultats. Parce que si on regarde les résultats, on arrive à avoir une intelligence positiviste. C'est terrible. Qui est accroché à tous les résultats. Et quand on est accroché à tous les résultats, ça va pas. On ne regarde que ses décorations. C'est très gênant, quelqu'un qui ne regarde que ses décorations. Très très gênant. Parce que il ne progresse plus. Si on veut progresser, il ne faut pas regarder ses résultats. Il faut laisser les autres compter. Toutes nos justices ont des taches à vos yeux. La justice, c'est la vertu qui nous permet de respecter l'autre. La justice est une des vertus fondamentales de toute communauté. Toute communauté humaine a comme fondement la justice. C'est pas la finalité. La fin, c'est l'amour mutuel. C'est la concorde. C'est la confiance. Mais elle implique la justice. La justice, c'est le fondement de toute communauté. Et la petite sainte souligne, toutes nos justices ont des taches à vos yeux. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un certain intérêt dans la justice. Celui qui demeure dans la justice, il y a un certain intérêt. On peut dire tout ce qu'on veut. Il n'y a pas surabondance à la justice. J'aime tout simplement de regarder cet exemple. Qui parmi vous paie ses impôts avec surabondance? Très net, hein? Or, à payer ses impôts, c'est la justice. On n'est pas du tout avec surabondance. On va demander conseil aux gens avisés. Qu'est-ce que je peux faire pour réduire un peu ça et ne pas être pincé? Quand on aime, on aime toujours avec surabondance. C'est le prof de l'amour. Plus jamais dire, j'aime assez. Je ne dépasserai pas ça. Je ne dépasserai pas cette limite, non. L'amour implique la surabondance. La justice implique la justice, c'est juste. Et là, exactement ce qu'on doit faire. L'exactitude, la netteté. Un homme juste, c'est ça. Un homme net, exact. C'est pas la même chose qu'un être bon. Il y a des hommes très justes, un peu durs. Un être bon attire. Et c'est autre chose. C'est quelque chose de différent. Toutes nos justices ont des taches à vos yeux. Je veux donc me revêtir de votre propre justice. La justice de Dieu est liée à l'amour. C'est la justice du démon qui n'est pas liée à l'amour. Le démon plaide de temps en temps la justice. Très curieux. Fait partie de ces tentations très subtiles du démon. Il plaide la justice. Une justice rigorac, exacte. Une justice sans amour. Très dure, la justice sans amour. Et alors, vous voyez, c'est cette manière dont elle discerne très bien la justice humaine et la justice de Dieu. Je veux donc me revêtir de votre propre justice et recevoir de votre amour la possession éternelle de vous-même. On ne possède pas l'amour, mais on possède la source de l'amour. C'est une personne qui se donne à nous. Et c'est dit avec beaucoup de netteté, je ne veux point d'autre trône et d'autres couronnes que vous, ô mon bien-aimé. À vos yeux, le temps n'est rien. Un seul jour est comme 1000 ans. Ça aussi, c'est très important. Un seul jour est comme 1000 ans. Très important de comprendre ça. Le prix, aux yeux de Dieu, d'une prière très intense, d'un regard qui prend tout, ça vaut 1000 ans. Il faut que, dans notre prière, on donne du temps. On dit, on fait une demi-heure d'oraison. Ça n'a aucun sens de dire une demi-heure d'oraison. Comprenez bien. Parce que l'oraison ne peut pas se mesurer. On devrait dire avec beaucoup de précision, je consacre une demi-heure à essayer de faire oraison. C'est ça qu'on devrait dire. Je consacre une demi-heure pour vous. Je boule ça. Je consacre 5 jours de retraite. Je les boule pour vous. C'est pour vous. Puis dans la retraite, il y a des moments de grande ferveur. L'aigle passe. L'aigle passe. L'Esprit Saint, c'est l'aigle. En nous emportant. C'est vrai. C'est vrai, c'est pour ça qu'elle symbolise l'aigle. Je connaissais comme ça quelqu'un, jeune fille, déjà un peu avancée en âge, mais quand même encore jeune, qui avait un désir intense de connaître ce que c'est que les aigles. Je comprends du reste. Très séduisant de connaître un aigle royal. Alors, aller chercher où on pouvait en trouver en France. On avait dit, dans les Pyrénées, il y a des lieux vous pouvez vous approcher de très près du nid des aigles. Alors un guide l'avait conduit très proche. Puis il l'avait quitté. Il restait là maintenant. Mais ne vous approchez pas trop, faites attention, il y a des petits. Alors il était à quelques mètres debout, se cachant. Puis quand l'aigle est arrivé, elle m'a dit, je n'ai plus regardé, tellement j'ai eu peur, je me suis aplati par terre. J'ai trouvé ça très beau. Quand l'aigle divin, l'aigle royal, l'aigle impérial, s'approche, s'emporte. Et elle, par terre, c'est le temps de crainte, hein. Laissez passer devant l'air. Pas être un obstacle, être emporté par lui. Faut comprendre ce symbolisme de l'aigle. Alors, quand on est sous le souffle de l'aigle, de l'Esprit Saint, un seul jour, j'allais presque dire un seul instant, nous fait toucher l'éternel, l'éternité. Et nous redonne une force. Parce qu'on est tout près de la source de tout amour. À vos yeux, le temps n'est rien, un seul jour, un seul instant, est comme 1000 ans. Vous pouvez donc, en un instant, me préparer à paraître devant vous. Sous le souffle de l'esprit, on rejoint la source de tout amour. Et ça, c'est quand même très important de comprendre cet appel très, très, très fort afin de vivre dans un acte parfait d'amour. Je m'offre comme victime d'amour à votre amour miséricordieux. Afin de, voilà la finalité. Toute cette offre d'amour est là afin de vivre dans un acte de parfait amour. Donc de rejoindre le mystère de Dieu, de toucher la source. Je m'offre. La chose la plus grande que je peux faire, c'est de m'offrir. Je m'offre comme victime d'Holocauste, l'agneau qui porte l'iniquité du monde. Jésus à la croix. Qui offre toute sa vie et qui se donne complètement afin de vivre dans un acte de parfait amour. Je m'offre pour vivre cet acte, pour que l'Esprit Saint puisse me prendre, pour supprimer tous les obstacles en s'offrant à l'amour miséricordieux. On veut supprimer tous les obstacles pour laisser l'aigle divin nous emporter et nous prendre. Je m'offre comme victime d'Holocauste. Vous savez, Holocauste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout est brûlé. C'est la victime où tout est brûlé. En grec, c'était ça, Holocausto. C'est que tout soit brûlé. On demande que tout soit brûlé par le feu divin. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle était toute brûlée, par ce feu d'amour. Je m'offre comme victime d'Holocauste à votre amour miséricordieux. Vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont enfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour. Ô mon Dieu, martyr de votre amour. C'est bien ce que Marie a vécu à la croix, où elle est la reine des martyrs. Et pourquoi a-t-elle vécu ça à la croix? C'est qu'à la croix, elle a tout offert. Elle a tout offert à Jésus, étant une avec lui dans son sacrifice. Et à la croix, Jésus lui a envoyé le paraclet. Je crois que le premier moment de la Pentecôte, c'est-à-dire du don du paraclet, le don de l'aigle divin, c'est à la croix pour moi. Il y a un don particulier d'Esprit Saint à Marie. Le second moment, c'est aux apôtres après la résurrection. Et le troisième moment, c'est pour toute l'Église à la Pentecôte. Il faut bien voir ces trois Pentecôtes d'amour. Et ne pas oublier celle que la petite Thérèse a très bien compris et qu'elle demande pour elle. Si elle demande pour elle cet acte parfait d'amour pour être entièrement consumée dans ce feu d'amour sous le souffle de l'aile divin, parce qu'elle sait que Marie l'a vécu pour elle. Alors elle peut le vivre. Nous verrons au terme de la retraite, n'est-ce pas, la petite Thérèse et la Vierge Marie. Et je souligne ici tout de suite, parce que c'est tellement fort cela, et c'est tellement net, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour, mon Dieu. Comment est-on martyr de l'amour du cœur du Christ à la croix? En étant avec lui l'agneau qui porte l'iniquité du monde. C'est l'holocauste du Christ. Il est l'agneau qui porte l'iniquité du monde. Il a accepté de se présenter en face du Père comme le seul responsable de toute l'humanité pécheresse. Et il a tout pris sur lui pour que par lui et en lui, nous recevions l'amour miséricordieux du Père. Vous voyez comment, si j'essaie de saisir la profondeur de cet acte d'offrande à l'amour miséricordieux, je suis en présence du mystère de Marie au pied de la croix. Le mystère de Marie dans sa coopération divine à la croix du Christ. Et c'est cela que la petite Thérèse veut vivre, le mystère de la compassion, dans ce qu'il a de plus fort, d'ultime. Et j'allais dire, ce qu'elle nous dit là, elle nous révèle pour nous ce que Marie a vécu et ce qu'elle-même vit. Pour nous, enfants du XXe siècle, qui avons ce privilège d'avoir reçu durant ce siècle la proclamation de l'Assomption et qui avons entendu le pape proclamer la Pentecôte d'amour. Marthe avait un tel désir que le pape proclame cette Pentecôte d'amour. Et le pape la proclame dans un pèlerinage au Pologne, ce fameux pèlerinage à 2 ans. Le jour du 15 août de l'Assomption. Pour nous faire comprendre que le mystère de l'Assomption nous révèle le fruit le plus merveilleux de cette Pentecôte d'amour. C'est Marie dans son Assomption. Et
la petite Thérèse montre comment on anticipe ce mystère par son acte d'offrande. Je crois que là, nous découvrons ce que l'Esprit Saint veut nous donner dans cet acte d'offrande d'amour. C'est vrai quand le pape dit le jour de l'Assomption que nous sommes en présence d'une Pentecôte d'amour, il montre que nous entrons comme dans la dernière étape de l'Église, comme une nouvelle Pentecôte qui passe par le cœur de Marie, ce cœur qui compatit à la croix et ce cœur qui connaît la gloire du Christ actuellement. Et c'est pour nous. Vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour. Ô mon Dieu, que ce martyr, après m'avoir préparé à paraître devant vous, me fasse enfin mourir et que mon âme s'élance sans retard dans l'éternel embrasement de votre miséricordieux amour. Oui, bien, cet acte doit lui permettre d'entrer dans cet éternel embrasement de votre miséricordieux amour. C'est devancer la gloire. Je veux, ô mon bien-aimé, à chaque battement de mon cœur, vous renouvelez cette offrande un nombre infini de fois jusqu'à ce que les ombres s'étant évanouies, je puisse vous redire mon amour dans un face-à-face éternel. Ce qui dispose de la manière la plus forte à cette entrée dans la vision béatifique, à ce face-à-face éternel, c'est bien cet acte d'offrande d'amour à l'amour miséricordieux. C'est bien cet acte de Marie à la croix, vivant le mystère de Jésus qui s'offre au Père pour le glorifier, pour nous glorifier, pour nous sauver. Et la petite Thérèse a vécu cela sous le souffle de l'Esprit Saint. Mais je crois qu'on peut dire que ce que Marie a vécu à la croix, qui est le dernier acte de la vie du Christ sur la terre, le dernier acte de Jésus pèlerin, c'est l'offrande de toute sa vie au Père. À travers le mystère de la croix, dans l'holocauste de la croix. C'est son dernier acte, ce cri de soif et la remise totale de tout entre les mains du Père. Marie ne peut que vivre ce dernier acte de la vie de Jésus au pied de la croix jusqu'au moment où elle-même vivra son dernier acte d'amour lié à la foi obscure, lié à son espérance pauvre. Elle ne peut pas vivre d'un autre acte, c'est le sommet. Marie est toute relative à Jésus. Il y a la croix et le vit sous le souffle de l'Esprit Saint, cette attraction prodigieuse du Christ crucifié. Quand je serai attaché sur le bois, j'attirerai tout à moi Donc elle est attirée sous le souffle de l'Esprit Saint par Jésus, par la blessure du cœur du Christ, par le cri de soif. J'ai soif. Et elle vit cela jusqu'à la fin de son pèlerinage terrestre. Je ne peux pas vivre de quelque chose de plus grand que cela. Et la petite Thérèse comprend cela à sa manière, d'une façon très étonnante. C'était ce que la petite Marthe vivait, ce cri de soif du Christ, quand elle vivait la passion avec Marie. Et cela, c'est pour nous, dans ce siècle de terrible laïcisation, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, y aura-t-il encore la foi? L'abomination de l'abomination à l'ombre de l'autel. Je crois que nous vivons ça si nous sommes un tout petit peu clairvoyants et si nous essayons de voir ce qui est autour de nous. C'est pas du tout pessimiste, hein. C'est au contraire une très grande espérance. Au milieu de la souffrance, il y a cet élan, cette attraction prodigieuse que Jésus sur la croix exerce sur nous. Quand nous avons le courage, comme la petite Thérèse, de regarder la sagesse de la croix. C'est quelque chose de très très grand. Puisque c'est le secret de toute notre vie chrétienne. C'est cela que l'Eucharistie ne cesse de nous rappeler tous les jours. Pour que le mystère de la croix soit actuel dans notre vie. Et que nous le vivions autant qu'on le peut. Ceci est, je crois, très net lorsque nous comprenons ce qu'elle-même nous dit. Je veux, ô mon bien-aimé, à chaque battement de mon cœur, vous renouveler cette offrande. Ce qui prouve qu'elle sait que c'est là le sommet. Et on doit le renouveler tout le temps. Ce n'est pas une répétition, c'est le renouveler, le revivre. Parce que c'est un acte d'amour. Plaignez, Tata, ce que Marie a vécu. C'est très beau de voir, voyez, que c'est cette petite enfant qui nous révèle les secrets de la mère. La mère est toujours silencieuse. Et c'est les enfants qui révèlent les secrets de la mère. Et c'est la petite Thérèse qui révèle ce grand secret de Marie. Et elle nous le révèle dans son acte d'enfant. Étant complètement brûlé, comme Marie. Marie restait debout au pied de la croix. Faut pas voir les peintres du 17e siècle, du 16e siècle qui montrent que Marie tombe de pamoison, de souffrance à la croix. Non, Saint Jean dit Stabat Mater. Elle est debout. Pourquoi? Parce qu'elle est forte de son amour. D'un amour qui vient directement de Dieu. Elle est forte de ce feu qui la prend. Et la petite Thérèse a la même force. À chaque battement de mon cœur, vous renouvelez cette offrande un nombre infini de fois. Elle l'a renouvelée un nombre infini de fois. Comme Marie, et à la suite de Marie, et en elle, jusqu'à ce que les ombres s'étant évanouies, je puisse vous redire mon amour dans un face-à-face éternel. Pour mieux comprendre la signification profonde de cette offrande, n'oublions jamais de regarder ce qui nous est dit dans l'histoire d'une âme. Je vais vous relire ce passage parce que je crois qu'il nous éclaire énormément. C'est Thérèse elle-même qui nous parle. Et qui, après quelques années, peu de temps après, très vite, comprend la grandeur de cet acte. Elle avait été comme emportée à le prononcer le jour de la Très Sainte Trinité. C'est très beau, tu vois, que ce soit le jour de la Très Sainte Trinité. Parce que c'est bien la croix, la sagesse de la croix, qui est pour nous la grande révélation de la Très Sainte Trinité. J'aime beaucoup, personnellement, de regarder à la croix l'icône de la Très Sainte Trinité. Comprenez bien, il y a une icône de la Très Sainte Trinité très répandue aujourd'hui. Les trois jeunes gens auprès d'Abraham, au chêne de Mamré, comme Cyrus, comme cet oriental, orthodoxe, on l'aime beaucoup. On a raison de l'aimer. Et nous avons, nous, un secret plus grand. Il ne faut pas l'oublier. Il y a une icône de la Très Sainte Trinité qui, pour nous, est infiniment plus parlante que celle-là, infiniment plus intérieure. Elle ne supprime pas la première. Le Nouveau Testament ne supprime rien à l'Ancien Testament, mais en donne la signification plénière. On doit s'arrêter plus longtemps au Nouveau Testament et à Saint Jean qu'à la Genèse. Bien que la Genèse soit merveilleuse au plan psychologique, la Genèse nous dit des choses étonnantes. Je voudrais faire une psychologie chrétienne à partir de l'Écriture. Elle serait merveilleuse et très étonnante. Parce que, on la voit, hein, faites la psychanalyse de Sarah. Hein, quelque chose. C'est quelque chose, Sarah, vous savez. J'aurais pas aimé tellement de la rencontrer. Tous les jours, elle était de mauvaise humeur. Quand la Très Sainte Trinité vient, elle rit. Qu'est-ce que c'est que le rire, hein? Le rire, c'est quoi? Le rire, ça veut dire on a un tout petit peu peur, on s'écarte un peu. On s'écarte un peu. On s'écarte. Elle a eu très peur, hein, ce passage des trois. Avec son mari qui semblait être très pieux. Elle est à la cuisine, pas très pieuse. Ça va. Et quand le petit Ismaël grandit, et que le petit Isaac reste toujours son petit cadet, et qu'ils jouent ensemble, il connaît ses sermons, Ismaël l'emporte. Elle n'est pas contente du tout. Elle fait une crise de jalousie. Ça peut arriver, j'en très bien. Elle fait une crise de jalousie, mais terrible, parce qu'elle a louché. Elle a comparé. Ismaël n'est rien pour elle, si ce n'est un rappel que la servante est passée devant. Pas très drôle. Alors elle demande tout simplement à Abraham d'écarter Ismaël. Ismaël est le fils d'Abraham. Elle s'en occupe pas de ça. Elle va blesser Abraham. Elle s'en occupe pas du tout. Quand on est pris par une crise de jalousie, on ne s'occupe que de la satisfaction de remporter une victoire. Elle veut écarter. C'est un passage extraordinaire de l'Écriture, ça. Dans la Genèse. Facile à trouver dans l'histoire d'Abraham. Facile à trouver. Il faut lire ça. Il faut lire beaucoup la Genèse. Parce que psychologiquement, elle nous apprend des choses étonnantes. Étonnantes. Elle nous fait comprendre la complexité, hein, depuis le péché originel. Cette complexité. Nos grands-parents ont commis une faute dont on peut. porte un peu les conséquences. Chacun. C'est pas drôle. Elle veut chasser Ismaël. Pourquoi? Parce qu'elle pense à l'héritage. C'est bien. Toutes les familles sont divisées par les héritages. Ça continue d'être comme ça. Et il y a toujours une Sarah qui va avoir la grosse part. Toujours avec la part. Elle veut chasser Ismaël pour que Isaac hérite de tout. Et le pauvre Abraham, c'est pas ce qu'il doit faire. C'est dur pour lui de chasser son fils. Même si c'est le fils de la servante, c'est son fils. Faut jamais oublier ça. C'est son fils. Et Dieu a l'air de céder devant la colère de ça. C'est à partir de ce moment-là qu'on dit ce que femme veut, Dieu veut. Parce que ça, où elle tient. Elle a le bon bout, elle tient. Et Abraham est obligé de dire, petit Ismaël, de partir avec Agar. C'est un passage étonnant, ça. Ça jette une lumière sur toutes les histoires de famille. Parce qu'Abraham, c'est un père et un grand-père. Alors, pour mieux comprendre la qualité de cette offrande à l'amour miséricordieux, pour regarder certains passages que nous ferons ce soir, certains passages de l'histoire d'une âme, on voit mieux ce qu'elle a voulu faire. Elle nous le dit elle-même.